J'ai peur !»
pleurniche la patiente, allongée sur la table d'opération, les poignets attachés sur les appuis-bras à l'aide de sangles, dans la même position qu'était cloué Jésus sur la croix. Il est 5h20. On a opéré toute la soirée et une grande partie de la nuit. Je suis épuisée et je n'aurai qu'une seule envie, injecter d'un trait l'agent anesthésique dans les veines de la malade pour qu'elle s'endorme au plus vite. Elle a 32 ans et elle se comporte comme si elle en avait 4. On a dû négocier avec elle au moins 30 minutes avant qu'elle accepte de grimper sur la table d'opération et 5 minutes supplémentaires pour qu'elle veuille bien me laisser lui installer le soluté. Je comprends que ce peut être effrayant, une salle d'opération, mais il n'en demeure pas moins que ma patience a des limites. Malgré tout, mon côté tendre l'emporte sur mon manque de sommeil. Je prends le temps de rassurer la jeune dame en lui serrant la main, histoire de lui transmettre un brin de sympathie. Ensuite, je demande à l'inhalothérapeute de lui injecter un sédatif. Pas seulement pour son bien, mais pour soulager les oreilles de tous. L'équipe chirurgicale est déjà prête, debout et stérilement vêtue, à côté de la table d'instruments. Je déteste qu'on attende après moi, mais c'est ainsi que le veut la médecine. Lors d'interventions chirurgicales, l'anesthésiologiste se doit de prendre en charge le patient avant que le chirurgien puisse opérer. Lentement, je sens la jeune dame se détendre et ses larmes cessent de couler. Quand on s'endort avec une belle pensée, le réveil est serein, annonçai-je d'une voix douce. Choisissez-vous un beau rêve, j'injecte le médicament qui va vous endormir.
Ah, non, je vais me mettre à faire des bêtises,
bâille-t-elle, en résistant en vain contre les effets du produit anesthésiant.
Au moins, cette fois, vous aurez une bonne raison,
ricane l'inhalothérapeute, ce qui déclenche une avalanche de gloussements dans la salle. Évidemment, la patiente n'a conscience de rien. Elle est déjà dans les bras de Morphée.
Ouf, réplique le chirurgien, un peu découragé. Et tout ça pour une bouteille de Coca-Cola plantée dans le rectum.
De fait, tout ça aurait pu être évité si elle n'avait pas essayé de se donner du plaisir avec ladite bouteille de verre. Enfin, on soupçonne qu'elle souhaitait se donner du plaisir puisqu'elle a tout nié. Selon ses dires, c'était pour calmer une démangeaison au derrière. Évidemment, c'est une version qui nous rend tous un peu perplexes, mais semble-t-il que nous n'aurons jamais le fin mot de l'histoire. C'est un peu pour cette raison que nous nous amusons à inventer des variantes loufoques, juste pour le loisir de passer une nuit moins pénible. 3 heures plus tard, avant de partir du centre hospitalier de l'Université de Montréal, je reçois un message texto de ma mère. Maman.
On vous attend pour le réveillon.
Je soupire en levant les yeux au ciel. Je lui ai pourtant déjà expliqué que j'étais dans l'obligation de prendre la garde le soir de Noël.
Moi.
Je serai en service, maman. Je ne peux pas me joindre à vous pour le réveillon. Et même si je n'étais pas de garde, je m'inventerais sans aucun doute un autre prétexte pour m'épargner ce supplice familial. Comme je m'assois dans ma voiture, l'entrée d'un nouveau texto émet un tintement de clochette. Maman.
Évidemment, l'hôpital, toujours l'hôpital.
Un second soupir m'échappe. Pour ma mère, réussir dans la vie signifie être mariée et avoir des enfants avant l'âge de 27 ans. J'en ai 29 et je n'ai ni bagaudois ni enfant. Ça donne une idée du retard que j'ai à rattraper si je veux être à la hauteur de ses attentes. Contrairement à moi, Corinne, ma petite sœur, a compris que pour plaire à ma mère, elle devait remplir toutes ses exigences, ce qui fait en sorte que les réunions familiales sont désastreuses. Je me transforme systématiquement en mouton noir et la plupart du temps, je pars avant la fin de la soirée parce que j'en ai assez. Alors, tant qu'à passer un Noël pitoyable à être comparé sans vergogne à ma petite sœur ou à subir des jugements non fondés, aussi bien travailler avec des collègues dévoués. Les yeux fixés sur mon téléphone, je grince des dents. J'en ai assez de devoir toujours me justifier. En plus, je suis épuisée. À bout de patience, je pianote une réponse remplie de sarcasme qui, je l'espère, la fera réfléchir. Ensuite, je m'engage dans le trafic avec ma Audi, au moment même où le texto indique « envoyé ».
Moi.
Vraiment navrée d'avoir comme ambition de sauver des vies. Quelle ingrate je suis. Je ne peux pas croire qu'à 29 ans, je sois encore obligée de lui fournir des explications. J'avais espoir que, rendue à un certain âge, on me prendrait au sérieux et que je serais libérée d'avoir à livrer ce genre d'excuses. Que je serais assez vieille pour prendre mes propres décisions et qu'on me respecterait, peu importe mes choix. Eh bien, semble-t-il que dans ma famille, personne ne fonctionne de cette façon. Mes parents se foutent de ce qui est important pour moi, du moins ma mère. Tout ce qu'elle veut, c'est que je rentre dans un moule, son moule. Découragée par le tournant que prend ma vie ces derniers temps, je m'arrête à un feu rouge en massant mes tempes. Cette année, j'ai tout manigancé pour travailler à Noël. Les festivités ne me disaient rien qui vaille. Il n'y a qu'à l'hôpital que je me sente bien, car avec Julien, je ne suis plus sûre de rien. Notre couple bat de l'aile depuis déjà quelques mois, du moins de mon côté. Je n'ose même pas aborder le sujet avec lui de peur d'être la seule à ressentir cet éloignement qui se crée peu à peu entre nous. Ma mère dirait sans doute que c'est de ma faute, que je travaille trop et que c'est moi qui ai engendré ce fossé infranchissable, puisque Julien est parfait à ses yeux. Pour ma part, je répondrais que ce sont des soucis habituels de couple, enfin, je crois. Après 3 ans de vie commune, c'est normal de passer par là, non ? De se rendre compte que la magie n'opère plus comme avant. Qui sait, peut-être que cette épreuve nous propulsera vers la renaissance d'une relation amoureuse plus heureuse et épanouie sexuellement. En tout cas, je le souhaite, parce que pour l'heure, ma sexualité est un véritable fiasco. J'ai l'impression de n'être jamais à la hauteur de ce dont Julien a besoin. Et inversement, je ne peux pas dire qu'avec lui, j'ai souvent atteint l'extase. À vrai dire, j'ai espoir qu'un jour il apprendra à quoi peut bien servir un clitoris. À bien y penser, on devrait peut-être envisager une thérapie de couple. Possible qu'on en soit rendu là. Mais je doute que Julien accepte. Il n'est pas vraiment le genre d'homme à s'accorder des moments d'introspection. En général, c'est plus souvent la faute des autres. J'ai sûrement besoin de réfléchir à tête reposée, alors inutile de proposer à Julien quoi que ce soit qui pourrait nous achever. Rien n'empêche que, pour l'heure, la situation entre lui et moi est trop lourde à supporter pour que je passe plus de 8 heures d'affilée chez moi. C'est pour cette raison que je préfère me changer les idées en anesthésiant des patientes qui s'enfoncent des bouteilles de verre dans le derrière. Quand j'entre chez moi, mon mec est sur le seuil, prêt à partir avec son sac d'escalade sur le dos. « Tu t'en vas ?» Plié en couteau de poche pour nouer ses lacets, il émet un bruit de gorge affirmatif.
« Je pars pour la journée avec Tony. Il veut absolument me faire découvrir une cascade de glace. À ce qu'il paraît, c'est gigantesque. »
Un immense soulagement s'immisce instinctivement en moi à l'idée de me retrouver seule toute la journée. Puis, ce sentiment est vite remplacé par une grande incompréhension.
« Mais, et ta sœur ?»«
Quoi, ma sœur ?»
répète-t-il sans démontrer d'intérêt, tout en cherchant ses gants dans la penderie.
« Ben, elle arrive aujourd'hui, en fin d'après-midi. »
« Non, demain. »«
Je suis pas mal sûre que c'est aujourd'hui, »
dis-je en ouvrant le groupe de discussion familiale pour vérifier nos derniers échanges de textos.
« C'est écrit noir sur bleu, ici. Nous arriverons vers 16h le 21. On est le 21, »
ajoutai-je en tournant l'écran de mon téléphone vers lui. Cette fois, Julien s'immobilise, arque un sourcil qui donne l'impression qu'il se fout carrément de la situation, puis hausse une épaule désinvolte.
« T'es une grande fille !» « Accueille-les en attendant que je revienne »,
annonce-t-il en s'éloignant vers la porte.
« Bye bye, babe !»
Je reste sans mots, l'espace d'une seconde, avant de me ressaisir.
« Quoi ? Mais non !»
Comme j'accours vers la sortie, Julien s'engouffre dans sa voiture.
« As-tu préparé la chambre d'ami ?»
terminai-je sans entrain en le voyant mettre le véhicule en marche arrière. Décontenancé, je le regarde s'en aller sans se soucier de mon désarroi. J'ai envie de pleurer de rage tellement il me rend à bout. De lui arracher la tête et de la botter comme un ballon de football pour qu'elle traverse le quartier en filant à toute allure. Le pire, c'est que cette colère n'est rien comparativement à l'accablement qui m'envahit lorsque je retourne à l'intérieur. Non seulement la chambre d'amis n'est pas prête à accueillir ma belle famille, mais en plus, le duplex est sans dessus-dessous. Tout est à nettoyer. La vaisselle, la salle de bain, le salon. On dirait qu'un tsunami a passé la soirée ici. Je suis absente pendant 16h et il réussit à foutre le désordre partout sans aucun remords. J'ai l'impression qu'un poids lourd vient de déverser un voyage de briques sur mes épaules. Comment on a fait pour en arriver là?
comment j'en suis venue à devoir prendre soin de mon mec comme s'il était un enfant. Un enfant égoïste de surcroît. Tout a tellement changé entre nous depuis nos débuts ensemble. Avant, il était attentionné et charmant. Maintenant, c'est tout le contraire. Comme je me retourne pour monter à la chambre, j'ai un haut le cœur. Les chaussettes sales de Julien gisent encore sur la première marche de l'escalier. J'étais curieuse de savoir combien de jours il allait devoir les enjamber avant de les ramasser. C'est à croire qu'il ne les voit plus. À l'évidence, je devrais m'en charger personnellement, encore une fois. Je pousse un long soupir dépité. Ce n'est pas d'une thérapie de couple dont j'ai besoin, mais d'une chirurgie à couple ouvert.